midi à tous. Vous écoutez Europe 1, il est 13h.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez, chaque jour vous montrer qu'il y a autour de nous des gens de talent qui vibrent pour leurs projets et que c'est eux qui font bouger les choses en France. Gros plan aujourd'hui sur les savoir-faire d'outre-mer parce que nous sommes jusqu'à vendredi au Salon de l'agriculture et vous allez voir que même à des milliers de kilomètres de l'Hexagone, les tricolores se battent pour faire vivre les produits français. Ils existent depuis 1900, on les appelle les rois du grain. Soufflé est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Enfin, vous voulez devenir agriculteur et vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre. Mission Wheezy Farm est peut-être bien la solution. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, venez nous rejoindre au téléphone ou par Twitter, Marlène, pour nous dire si vous aimez les produits d'outre-mer et si vous faites attention, tiens, justement à leur provenance.
Et oui, n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire avec le hashtag Europe 1 sur Twitter. Il y a la page Facebook aussi d'Europe 1.
Car aujourd'hui, c'est en voyage depuis le Salon de l'agriculture que nous vous emmenons à la découverte des savoir-faire et des produits de chez nous. Pour accueillir nos invités à mes côtés ici au Salon de l'agriculture, Benjamin Lévesque. Bonjour Benjamin.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach Laurent Chouin, DRH du groupe Mazars. Bonjour Laurent.
Bonjour Raphaël.
On part en Guadeloupe et en Martinique, deux hauts lieux de la banane tout de suite sans plus attendre. Bonjour Philippe Ruel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 et ici au Salon de l'agriculture sur le stand de France Terre de Lait. On vous attend d'ailleurs, hein. venez nous voir. Vous dirigez l'Union des groupements de producteurs de bananes sur les deux îles. Les deux coopératives se sont en fait réunies il y a déjà une bonne dizaine d'années, hein, 2008 je crois. En tout, il y a 600 producteurs qui sont aujourd'hui derrière vous et 6000 salariés sont en fait, je suppose, le tout premier employeur des Antilles.
Voilà, c'est ça. Il y a une coopérative en Guadeloupe qui s'appelle Les Producteurs de Guadeloupe, qui a 200 adhérents, et puis une coopérative en Martinique qui s'appelle Banamart, qui a 400 adhérents. Et effectivement, ces coopératives se sont réunies en 2006 exactement pour avoir un seul outil de commercialisation et de promotion de la banane de Guadeloupe et Martinique sur le territoire européen, principalement en France. Et effectivement,
pour qu'il n'y ait qu'une seule vitrine finalement.
Voilà, c'est ça. Un cahier des charges, une marque qui est une marque origine puisque c'est la banane de Guadeloupe et Martinique. Et puis surtout, un circuit de commercialisation, une même stratégie commerciale. Donc ça, c'est important parce qu'auparavant et jusqu'en 2003-2004, il y avait 12 metteurs en marché de la banane de Guadeloupe et Martinique sur le territoire français. Et quelque part, il y en avait toujours un pour faire moins cher. Donc la banane était un peu mal valorisée. Et donc ça a aidé en fait à mettre en place une stratégie de qualité au niveau de la production.
La culture de la banane, elle a évolué, mais elle a toujours été présente, hein, sur les deux îles.
Alors elle est présente depuis les années 20 en fait. Hein. C'est un fruit qui n'est pas un fruit endémique des Antilles. Hein. Il est arrivé des Indes et avec tous les transports maritimes, etc., et qui a été longtemps, finalement, assez peu développé dans la consommation locale. Et on a commencé à l'exporter à partir du moment où il y a pu y avoir déjà des bateaux avec un peu des températures dirigées, parce que c'est le problème de ce fruit qui évolue très vite aux fortes températures.
Benjamin, c'est la banane le fruit préféré des Français.
Et oui, puisque près de 9 Français sur 10 en achètent au moins une fois dans l'année, hein, selon l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer. Chaque année, notre pays produit 260 000 tonnes de bananes. Et sans surprise, la totalité de cette production provient des Antilles françaises, Martinique pour 80%.
Oui, d'ailleurs, la banane française produite, c'est le marché intérieur qui fait qui l'a fait vivre. 70% des ventes chez nous, dans l'Hexagone.
Ouais, c'est ça. Alors, si on pouvait mettre 100% de notre production, on le ferait. Malheureusement, il y a un hiver aux Antilles, contrairement à ce qu'on peut penser. La température descend un petit peu. Et ce qui fait que on a moins de bananes pendant la période janvier, février, mars. Et or, c'est le moment où la consommation est la plus forte. Et on a plus de bananes en été, là où la consommation diminue, parce qu'il y a, en France au moins, parce qu'il y a beaucoup de concurrence d'autres fruits. Ce qui fait qu'on est obligé, pendant cette période-là, d'exporter la banane sur les autres pays européens.
Que dit notre coach, Laurent Chouin ?
Qu'on en achète et qu'on en achète de plus en plus du bio. Mais pour vous, il y a bio et bio, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que la banane française, elle est bio, et puis il y a d'autres bananes qui s'annoncent bio, peut-être un peu moins.
Alors on a une difficulté majeure qui est la conformité au cahier des charges bio français et européen. Et en zone tropicale humide, comme les Antilles, c'est très difficile. On a par exemple des champignons qui se développent très vite parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a de l'humidité. Et les pays producteurs de bananes en dehors des pays européens, que sont l'Équateur, la Colombie, le Pérou, la République dominicaine, produisent des bananes bio, mais sous un régime qui est un régime d'équivalence. C'est-à-dire que l'Europe reconnaît à ces pays-là une équivalence à nos normes. Mais nous, on n'a pas le droit d'utiliser leurs normes de production. Pourtant, ils ont le même label que nous. Donc, ça nous pose un petit problème de concurrence.
Et alors, comment est-ce que ça peut se régler, ça ?
Alors, le problème, c'est que...
J'imagine que vous y travaillez.
Voilà, on y travaille, mais surtout par une information du consommateur. Mais c'est assez compliqué à dire que, quelque part, il y a un peu de façon de voir les choses. Bon, néanmoins, je pense que le consommateur fait confiance, et c'est un peu toute notre communication, aux produits français et aux réglementations que ça suppose, tant en matière sociale qu'environnementale. Et pour le bio, il y va de même. Alors, on a actuellement un producteur de bio, de vrai bio, et 10 en conversion. Mais le modèle économique n'est pas tout à fait encore pertinent. Mais on travaille, et du coup, ça nous rend innovants.
Alors justement, vous innovez aussi ici, hein, au Salon de l'agriculture, puisque vous lancez une banane spéciale. C'est une banane enfant. Elle est comment, cette banane enfant? Elle est plus petite? Elle a quoi de particulier?
Voilà, alors je ne l'ai pas amenée parce que, comme on la lance que demain, on ne peut pas la présenter.
Vous avez vu, j'ai l'information.
Voilà, non, en fait, c'est ça. C'est une sélection d'une banane qui fait 130 grammes, qui est plus petite, effectivement, pour des moments de consommation un peu différents. Et c'est vrai que les enfants, voire d'autres personnes, aiment bien ces bananes-là. Et donc, l'idée, c'est de présenter aux consommateurs, aux parents, une banane qui sera quand même enrubannée de son ruban bleu, blanc, rouge, pour qu'elle soit bien identifiée, Guadeloupe et Martinique. Et puis, avec, effectivement, un côté ludique pour les enfants.
Il y a un vrai mouvement des producteurs, on l'a vu aussi depuis quelques années, contre l'usage du chlordécone, qui était utilisé jusqu'en 1993 pour éliminer le charançon sur les différentes cultures. Ici au salon, c'est quelque chose dont vous parlez, justement, c'est quelque chose... les gens viennent vous voir, vous posent des questions?
Oui, bien sûr, ça fait partie de notre histoire, mais comme ça fait partie de l'histoire de l'agriculture française ou européenne, l'usage, la production intensive et l'usage des pesticides de façon très importante a été un mode de production d'il y a 30 ou 40 ans. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, ça laisse des traces. Et aujourd'hui, donc, c'est ce qui a incité les producteurs à être dans une dynamique plus vertueuse, et on a notamment réduit de plus de 65% l'usage de ces produits chimiques pour la culture du bananier. Et quelque part, sur des terres qui sont aujourd'hui polluées, mais il vaut mieux faire de la banane, puisque c'est un produit qui ça fixe les sols d'abord, et puis ça ne s'exporte pas dans la plante ni dans les fruits.
Et puis la banane, Benjamin, ça sert à beaucoup de choses, notamment à la cosmétique.
Oui, ça s'appelle Cadalie. C'est une jeune marque de cosmétiques créée par Shirley Bio. En fait, il y a une dizaine d'années, elle s'est intéressée à la composition de la partie grasse du fruit, très riche en phytostérol. Et le phytostérol, eh bien, c'est un antioxydant qui a des vertus anti-âge. Elle a donc conçu des produits cosmétiques à base des déchets de la filière banane.
On reste ensemble ici au Salon de l'agriculture sur Europe 1 et on va évidemment continuer à vous faire voyager.
Il est tout juste 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
On continue notre tour des Antilles dans quelques instants avec un autre produit phare, c'est le rhum. Celui de Damoiseau fait partie des grands noms. A tout de suite.
Toute cette semaine, la France bouge. Je vous donne rendez-vous sur le stand France Terre de Lait du Salon de l'Agriculture, Porte de Versailles à Paris. Aujourd'hui, pour débuter la semaine, Raphaël Duchemin, on parle des produits des tom-toms.
Oui, ceux qui ont déjà voyagé aux Antilles savent que le rhum fait partie des traditions dans les îles. Et c'est aussi en Guadeloupe ou en Martinique lié à l'histoire d'une famille, bien souvent. Bonjour Hervé Damoiseau.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG du rhum Damoiseau, la SAS rhum Damoiseau. C'est votre grand-père, je crois, qui a relancé la distillerie qui porte désormais votre nom en Guadeloupe, dans la ville du Moule. On est quoi, au début des années 40?
On est en 1942, quand mon grand-père se fait proposer la distillerie par un ami notaire, alors qu'il n'a pas les moyens. Et il trouve...
Il refuse d'ailleurs d'abord.
Il refuse, effectivement. Enfin, il ne refuse pas réellement. Il ne va pas visiter la distillerie. Et oui, il est directeur de l'usine Beauport à Port-Louis. Et puis, il y a ses voisins de la distillerie Bellevue qui vient le voir.
L'usine Beauport, qui est une usine de sucre.
Une usine de sucre, exactement. Donc ses voisins Néron viennent le voir, lui proposer, lui dire « Monsieur Lamoiseau, vous avez déposé l'option pour la distrib Bellevue au Moule, ça nous intéresse, on vous l'achète au double de son prix.
Ah, » Et là, il se dit « Peut-être qu'il faut que je le prenne. »
Voilà, je vais aller voir quand même à quoi ça ressemble. Donc il prend sa vieille Citroën, il monte au Moule, il visite, et puis il se dit « Vaut mieux un petit chez-soi qu'un grand chez les autres. » Il va voir son ami notaire qui accepte de le financer, et puis voilà comment l'histoire commence.
C'est difficile hein, au début de faire démarrer cette distillerie. C'est votre père en fait qui va vraiment la lancer. C'est vraiment lui qui démarre l'aventure.
Alors, mon grand-père meurt assez jeune, en 68. Il laisse malheureusement la distillerie en pas bonne santé, puisqu'il faut quand même savoir qu'à l'époque, il y avait une centaine de distilleries. Donc il y a une distillerie quasiment dans chaque bourg.
Ouais, la concurrence est rude.
La concurrence est rude. Et donc, voilà, mon père hérite de cette distillerie avec ses frères et sœurs. Et il décide donc de continuer l'aventure, d'y aller. Et puis, mon père, en 96, nous laisse les rênes à moi et mon frère Jean-Luc, oui. De façon à redynamiser le rhum. Et nous avons la chance de tomber au même moment dans un secteur qui devient favorable au moment
où... Oui, parce que voilà. les distilleries ferment, il n'en reste aujourd'hui que 9. Pourquoi ? À cause des normes, à cause des taxes ?
Un peu de tout, déjà les douanes, ensuite les normes de plus en plus drastiques et on peut le dire emmerdantes.
Alors j'ai regardé, en fait vous êtes la dernière à résister à Grande-Terre, c'est ouais. ça. Et on peut dire que c'est là que ça a démarré l'histoire de la rhumerie, c'est à Grande-Terre.
Voilà. La Guadeloupe est partagée entre deux îles, qui sont la Basse-Terre et la Grande-Terre. La Grande-Terre est un plateau calcaire où il n'y a pas d'eau. Or, dans une distillerie, on a besoin de beaucoup d'eau pour faire tourner la distillerie. Donc, c'est quasiment un exploit d'arriver à maintenir une activité en Grande-Terre quand on sait qu'on a besoin de beaucoup d'eau. Et on s'est battu. On a un puits sur lequel on puisait l'eau nécessaire à la distillerie. Et puis voilà. Il faut savoir que la Grande-Terre, c'est aussi le bassin canier historique de canne à sucre, parce que c'est là où il y avait les meilleures cannes à sucre de la Guadeloupe. C'est d'ailleurs pour ça que les usines à sucre restantes encore en activité sont en règle générale en Grande-Terre ou à Marie-Galante, qui a le même terrain calcaire.
Benjamin, le rhum, en quelques chiffres, ça donne quoi aujourd'hui pour l'activité, la partie française hein ?
Oui, bien sûr, la partie des Antilles, eh bien, l'an dernier, 16 millions de litres de rhum ont été produits en Martinique. Plus de 8 bouteilles sur 10 sont expédiées en métropole et dans une centaine de pays du monde. Mais face à la concurrence des marchés voisins, eh bien, le marché du rhum dans les Antilles ne va pas très bien. Par exemple, en 1968, la Guadeloupe comptait plus de 70 distilleries sur le territoire. En 1980, il n'en reste plus que 12 et aujourd'hui, il n'y en a plus que 9.
Oui, c'est ce que nous disions, hein. 9, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a un savoir-faire qui se perd, qui disparaît. Vous pensez que la résistance est en train de s'organiser ? Est-ce que justement c'est un milieu qui se serre les coudes aujourd'hui ?
Alors, la résistance, il ne faut quand même pas exagérer, parce que ça a l'air de dire que nous sommes en guerre contre l'État
français.
Non,
la résistance entre vous, non, pas du tout. La résistance pour continuer à vivre.
Oui, ça voudrait dire que nous sommes en guerre avec contre l'État français ou l'Europe. Non, heureusement, il y a des... L'Europe a pris la mesure de l'importance d'avoir du rhum. Il n'y a que les ministres français qui ne l'ont pas pris, hein, puisque Mme Buzyn met une taxe à partir de l'année prochaine où le rhum va prendre 30% quand même aux Antilles, d'augmentation, que par les taxes. On les a alertés de ce danger. Alors, pas parce
ça veut dire que ça va se traduire par une augmentation de combien tiens, sur une bouteille classique de rhum ?
Une bouteille de rhum blanc aux Antilles comme celle-là ne coûte que 8 euros, 8,50 euros, et elle va augmenter de 3,50 euros. Alors sur 4 ans certes, mais bon, ça fait quand même une augmentation assez phénoménale que le consommateur aura du mal à supporter. D'autant plus que bon, on n'arrête pas de parler de la lutte contre la vie chère, et puis là, ça ne va pas dans le sens de la lutte contre la vie chère.
Oui, en revanche, ça, c'est peut-être aussi des questions de santé
publique.
Par contre,
ça va bien dans la lutte pour amender le budget du gouvernement.
Oui, c'est aussi une question de santé publique, hein, de faire attention à ce qu'on boit et à la quantité qu'on consomme. Une question peut-être de Laurent Choin. On va y revenir, ne vous inquiétez pas, moi, j'ai lu d'aucune question.
Une question de DRH, tiens.
Une question de DRH, ah.
Ouais. J'ai cru comprendre que c'est une industrie de main-d'œuvre, beaucoup. Or, nous, l'image qu'on a souvent en métropole, qui est fausse ou vraie, c'est à vous de dire, c'est que c'est compliqué socialement. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous ? C'est-à-dire, comment ça se passe dans cette industrie de main-d'œuvre ? Ça se passe bien ? Vous avez toujours les mêmes gens depuis longtemps Comment on fait ce rhum aussi du point de vue justement écologique et social?
Alors chez Damoiseau, nous on a les mêmes salariés depuis des années qui restent. On a une convention collective qui est plutôt très favorable, avec beaucoup d'avantages. Bon, naturellement, pour les salariés, il n'y en a jamais assez, mais ça, c'est normal.
Oui, il y avait eu un conflit social en 2009, hein, je crois, d'ailleurs.
Oui, il y a eu un gros conflit, exactement. Mais bon, ça fait partie de la vie.
Les choses sont rentrées dans l'ordre depuis?
Les choses sont rentrées dans l'ordre, mais bon, on se frictionne toujours un peu. Le début de campagne, tous les ans, il y a toujours quelque chose de problématique aux Antilles. D'ailleurs, la preuve, nous sommes en plein NAO de filière actuellement. Et alors que l'inflation est de 0,8%, nous avons accepté de monter les salaires de 1,4%. Alors les syndicats ne veulent pas démordre à moins de 3%. Donc c'est pour vous dire quand même qu'il y a un gros fossé. Et bon, on y arrive toujours à un moment donné, à un autre, à s'entendre. D'ailleurs, c'est dans l'intérêt des deux parties.
Oui, d'autant que vous êtes une société qui va plutôt bien. Je crois que vous faites 12 millions de chiffre d'affaires, c'est ça?
Exactement.
3 millions de bouteilles vendues?
Oui, entre 3 et 3 millions 5, oui.
Vous sentez qu'il y a des choses qui changent, par exemple, est-ce qu'il y a un élan différent en direction du rhum? Est-ce qu'on en consomme plus, moins? Est-ce qu'on consomme davantage de rhum arrangé? C'est à la mode?
Alors, on consomme plus de rhum, c'est bien simple. On a débuté en métropole, le marché du rhum a été renégocié, revu en métropole en 1995. Il n'y avait que 67 000 échappées de vente sur toute la métropole. On est passé l'année dernière à 127 000 échappées de contingent, donc de vente sur la métropole, ce qui prouve bien que le rhum est en plein développement. La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane ont la chance de faire, et je le dis tout le temps, le meilleur rhum au monde. Nous faisons du rhum agricole et il est indéniable que c'est la qualité. Exactement comme dans la banane, on a les meilleurs produits du monde. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire, de le répéter jusqu'à ce que les gens l'intègrent en eux-mêmes.
On reste ensemble, on continue à faire un tour d'horizon de ces produits d'outre-mer sur Europe 1 aujourd'hui.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et quand on pense île, on a l'image de la carte postale aussi, des cocotiers. C'est comme ça qu'est né le Monoï de Tahiti. A tout de suite.
Jusqu'à 14h, vous écoutez La France Bouge et Raphaël Duchemin en direct du Salon de l'Agriculture. Banane, rhum, monoï, aujourd'hui on s'intéresse aux produits des dom-toms. Si vous souhaitez nous laisser un petit message via Twitter, n'hésitez pas, hashtag Europe 1. Et puis n'hésitez pas aussi à venir nous saluer sur le stand d'Europe 1, le stand oui. France Terre de Lait.
Et oui, on vous attend, venez, vous êtes les bienvenus, toujours en direct de ce Salon de l'Agriculture avec un produit qui cette fois-ci ne se mange pas, en tout cas pas en l'état, mais qui vient directement de la noix de coco, direction Tahiti avec la parfumerie Tiki. Bonjour Bruno Ling.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de Tiki Tahiti en France. C'est quoi l'histoire? Racontez-moi, comment est né ce produit? Qui a eu l'idée de finalement se servir de la noix de coco pour faire autre chose que pour la manger?
Alors qui exactement, je ne saurais pas vous dire, puisque le produit a été créé il y a plusieurs millénaires en arrière par les premiers Tahitiens qui ont débarqué.
C'est ancestral.
Voilà. Ensuite, il y a eu le début de l'histoire de la parfumerie Tiki à partir de 1742, grâce à l'arrivée d'un pharmacien américain qui a découvert ce produit magique et qui a voulu le développer, mais qui n'avait pas les contacts sur place pour le créer.
Oui, c'est Gustave Langy, c'est ça, en 42, qui décide de commencer à commercialiser, à industrialiser finalement le produit qu'on connaît aujourd'hui.
Voilà, parfaitement. Mon oncle donc est le pionnier du monoï de Tahiti au niveau mondial. Il a eu cette chance d'avoir justement cet appel de cette personne étrangère qui a voulu développer ce produit. Et il n'y connaissait absolument rien. Il était auparavant un simple moniteur d'auto-école qui avait l'ambition de faire autre chose de plus important et de plus mondialement appréciable par tout le monde.
Et alors c'est lui qui exporte le premier. Comment est-ce qu'il a l'idée justement de prendre ce produit ancestral, vous le disiez, 2000 ans d'histoire, pour le mettre dans des flacons et le faire connaître ailleurs sur la planète?
Alors il a commencé comme tout le monde derrière son garage à produire du monoï pour la consommation locale. Et dans les années 70, on a eu la visite d'une personne qui nous a aidés de façon exceptionnelle. Ça a été la visite de Madame Brigitte Bardot lors de son voyage à Tahiti. Et elle a été notre première ambassadrice à exporter le monoeil de Tahiti et le faire connaître à tous les Français durant la période estivale.
Et alors, c'est toujours une entreprise familiale, hein, puisque
oui,
c'est mon oncle, c'est Daniel, c'est ça son fils qui,
voilà.
Qui dirige toujours l'entreprise. Vous produisez quoi, 20 tonnes, c'est ça, de monoeil par
oui,
an
plus, plus, de 20 tonnes, plus de 20 tonnes de monoeil brut hein, que nous retrouvons ensuite retransformé dans les différentes gammes de produits. Nous sommes le leader du monoeil produit fini en Polynésie française.
Et qui sont vos concurrents, justement?
Alors, on a d'autres concurrents, donc des Français.
Des Français aussi?
Des Français qui se sont installés à Tahiti, qui ont découvert également le monoeil, qui ont découvert la capacité de l'intérêt de ce produit au niveau mondial et qui sont venus avec leur technologie, leur savoir-faire pour proposer aux nouveaux clients d'autres références, d'autres produits.
Le coach?
Vous avez un bon tiki finalement, c'était très très bien.
Non, on parle de mana à Tahiti.
Mana, voilà.
C'est loupé.
Voilà, non, mais quand même, j'aime bien le mot tiki, moi, il me plaît beaucoup.
Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs tiki?
C'est des dieux ou c'est
tiki, c'est le dieu spirituel de Tahiti.
La petite figurine en bois là avec les. Non, ma question porte plus sur un point. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications qui permettent aux consommateurs en direct de vérifier si un produit est bon à l'usage ou dangereux. Et ça ne concerne pas que l'alimentation, mais ça concerne aussi, par exemple, les produits cosmétiques. Aujourd'hui, vous êtes impacté par ça?
On est impacté parce que les gens ont toujours peur de ce qu'ils consomment du fait de la transformation ou de l'abus de la matière première qui est le monoeil de Tahiti. Aujourd'hui, il y a énormément de laboratoires cosmétiques en France qui utilisent le monoeil en produit de base et qui ne proposent quasiment rien en valeur hydratante dans leur produit final. Ils sont obligés de refaire de nouvelles formules avec d'autres substances chimiques pour obtenir un produit équivalent, mais qui n'est absolument plus du tout naturel et qui n'a plus du tout les vertus initiales du produit.
Au fil du temps, vous avez, et vous le disiez tout à l'heure, élargi la gamme, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre ces morceaux de noix de coco en bouteille là? Racontez-moi, on casse la noix de coco, ensuite on extrait, ça me fascine, j'ai envie de savoir comment vous y arrivez.
Alors, la noix de coco, donc, les cocotiers sont essentiellement cultivés dans les atolls de la Polynésie française, dans les atolls de Tuamotu. On ouvre la noix de coco, on récupère donc cette fameuse noix qui est à l'intérieur, on la fait sécher sur des tôles de façon très basique. Et lorsque la noix est parfaitement sèche, on la ramène sur Papeete, sur Tahiti, dans l'huilerie de Tahiti qui est une huilerie unique qui est gérée par le territoire. Ils nous font la presse, ils nous font le raffinement et nous on rachète donc cette huile qui est raffinée qui ne représente qu'une très faible partie de la production d'huile de Tahiti et nous faisons cette macération miracle qui est l'huile de coco raffinée et la fleur de tiare, la fleur unique de Tahiti et au niveau mondial. Elle ne pousse qu'en Polynésie française.
Il y a une question aussi qui est une question d'actualité pour vous, c'est le marché du vrac. C'est quelque chose que vous aimeriez développer, hein, si j'ai bien compris. C'est quelque chose sur lequel vous êtes pas absent, mais moins présent que ce que vous aimeriez.
Oui, on est moins présent que les concurrents, puisqu'on a toujours travaillé sur le produit fini. Mais on se rend compte que la puissance de ce produit naturel a tellement de possibilités dans les laboratoires cosmétiques qu'on aimerait bien pénétrer ce nouveau marché, mais en même temps, on essaye aussi de valoriser notre produit et non pas simplement de le vendre comme produit brut et pour obtenir derrière des concurrents qui nous proposent des produits sans valeur.
On reste ensemble, on continue à faire le tour des îles aujourd'hui en direct du Salon de l'Agriculture sur Europe 1.
Il est 13h27. Europe 1, Raphaël Duchemin.
Restez avec nous, on vous attend. Hein. Vous pouvez nous écrire par Twitter, vous pouvez aussi nous appeler au 3921 et poser toutes vos questions à nos invités. C'est la France qui bouge en direct du Salon de l'Agriculture.
13h29, on retrouve tout de suite Raphaël Duchemin en direct du Salon de l'Agriculture. C'est la France bouge, on continue à parler des produits des Dom Tom.
Oui, nous sommes toujours avec Laurent Chauhin qui est notre coach aujourd'hui, Benjamin Lévesque qui m'accompagne et nos invités, Philippe Ruel, directeur général de l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique, Hervé Damoiseau, PDG du Rhum Damoiseau et Bruno Ling, directeur France de la parfumerie Tiki qui produit et qui commercialise la marque de Monoï Tiki Tahiti. Messieurs, moi j'ai une question. Est-ce que c'est difficile de vendre la marque France à l'étranger quand on est outre-mer comme vous? Est-ce que c'est un plus? Est-ce que vous sentez une appétence justement pour vos produits, Philippe Ruel?
Nous, dans le métier de la banane, dans le milieu de la banane, c'est vrai que au niveau européen, il y a 6,5 millions de tonnes de bananes qui sont consommées et elles viennent surtout d'Amérique centrale, Amérique du Sud, voilà.
De Côte d'Ivoire aussi un petit peu.
Un petit peu, mais ça représente... les bananes Afrique, Caraïbes représentent à peu près 1 million de tonnes, quoi. Et voilà. Alors que la majorité des bananes viennent d'Amérique du Sud, d'Amérique
centrale.
Ça veut dire qu'on est un tout petit opérateur. Et quelque part, l'origine France, pour tout ce qui est pays scandinaves, pays du Nord, ou l'Allemagne, ou les pays de l'Est, est assez peu usité, et puis c'est pas forcément un drapeau voilà, qui fait vendre. Par contre, pour toute l'Europe du Sud, là on retrouve effectivement une appétence pour le produit français.
Parce que gage de qualité.
Voilà, parce que sécurité alimentaire, qualité, effectivement.
Même chose pour vous, je suppose, Hervé Damoiseau.
Le rhum, c'est un peu plus compliqué, mais bon, oui, c'est sûr qu'il n'est pas vendu de façon internationale. Il y a des grandes marques. Pour ça, ils ont un système fiscal qui est bien plus avantageux que celui que l'Europe nous octroie, puisqu'il y a le cover over qui permet au Trésor américain de reverser à 3 distilleries américaines 90% des taxes perçues sur leur territoire. Même des rhums, par exemple guadeloupéens ou martiniquais, vendus aux États-Unis. Donc en un mot, on finance même nous, nos concurrents les plus directs. Et puis il faut savoir que le rhum agricole représente 1% du marché mondial. Donc vous voyez, on est vraiment
tout petit.
Oui,
parce qu'on dit le rhum, mais finalement on pourrait dire les rhums. Il y en a plusieurs. Il y a le rhum blanc, il y a le rhum ambré. Est-ce que vous sentez que justement il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers le rhum aujourd'hui? Parce qu'il y a par exemple en France une appétence pour le gin. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on délaisse certains produits pour se tourner vers d'autres?
Ah ben, pour l'instant, il y a une augmentation des ventes de rhum vieux depuis quelques années, on peut que s'en féliciter. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est passé de 67 000 à 127 000 HAP de ventes en métropole, donc c'est une très belle réussite en 20 ans.
Une question du coach, Laurent Chauhin.
En vous écoutant tous les trois, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que finalement, vous pourriez tous les trois être dans des démarches AOC, alors peut-être pas simplement vos entreprises, mais au moins les industries. C'est des choses que vous avez entamées, je crois que ça n'existe pas beaucoup dans le rhum, peut-être un endroit, mais...
Alors dans le rhum, ça existe en Martinique. La Martinique a une appellation d'origine contrôlée. La Guadeloupe l'a refusé à l'unanimité de ses distilleries. Par contre, nous sommes AOP. Pour nous, en tout cas, pour l'instant, ça n'a aucun intérêt d'être AOC, parce que l'AOC n'est qu'un cahier des charges qui ne garantit absolument pas la qualité du produit, qui est juste une traçabilité au même titre que l'IG que la Guadeloupe dispose.
Vous vendez essentiellement aux distributeurs? Vous vendez comment? Votre circuit de distribution, justement?
Alors, on a un circuit de distribution. Alors, Damoiseau est distribué, en tout cas, quant à lui, par sa propre boîte qu'on nous avons montée à Paris. Qu'on vend ensuite, qu'on distribue dans la grande distribution. Et puis nous avons un distributeur CHR qui est du gars.
Laurent, Benjamin, une question peut-être?
Laurent.
Bon.
Non, moi, une des choses peut-être dans la prolongation de ce qu'on disait, aujourd'hui vos circuits de distribution sont très les îles et la France. Comment vous envisagez d'étendre ça? Et est-ce que vous l'envisagez en fait?
Bruno Ling, on vous entend très Allô faiblement. Oui. Ah voilà, ça y est, je crois que vous avez un peu perdu.
Pour le Monoï de Tahiti, les réseaux sont assez compliqués puisque le Monoï n'est pas connu par tout le monde. La démarche est très très importante. C'est un produit qui est culturellement plus utilisé en France, donc nos voisins européens le connaissent. Mais après, sur des pays un peu plus lointains comme l'Europe de l'Est ou les continents américains, que l'on maîtrise assez bien, mais le continent africain et le continent asiatique, c'est très très difficile.
Ça veut dire qu'il y a encore un gros travail, justement, un gros marché à prendre déjà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et un gros travail à faire aussi en termes marketing pour aller vendre du Monoï en dehors finalement du petit cercle français.
Tout à fait. Et justement, c'est la quatrième génération qui est chargée de ce
travail.
La relève
est là.
Voilà, la relève est là. On est en train de former nos enfants à se diversifier, non plus dans le secteur simplement production et commercialisation, mais on essaie de les faire travailler un petit peu dans le marketing et dans le design pour justement avoir des produits beaucoup plus innovateurs.
C'est important justement de garder les choses en famille. Ça, on sent bien qu'il y a un héritage, il y a le poids de l'héritage, la transmission.
Ça permet de ne pas avoir de secret entre nous. Le dialogue est vraiment ouvert. La moindre suggestion est validée tout de suite. Elle n'a pas besoin d'un grand comité de personnes à décider oui ou non ou pourquoi. Je fais des déplacements réguliers à Tahiti, justement c'est pour ça, c'est que parfois internet c'est bien, mais quand on est en face à face avec les cousins, on arrive à traiter les dossiers beaucoup plus rapidement.
Laurent,
et qu'est-ce que vous attendez d'un salon comme celui-ci? Pourquoi vous êtes là finalement?
Ah, c'est la vitrine, non?
Pour nous, au niveau de la LAN de Guadeloupe et le Martinique, c'est un moment de prise de parole d'abord, et qui va nous permettre de décliner tout au long de l'année en fait le message qu'on envoie ici aux consommateurs. C'est un moment de contact important. Bon, c'est vrai qu'on est très présent sur les réseaux sociaux aussi. On a une communauté Facebook qui vit très bien. Et c'est un moment de rencontre, mais c'est aussi un moment pour poser notre message de l'année.
Et puis entendre aussi les consommateurs venir vous parler de vos produits, vous dire ça va, ça va pas. C'est aussi un retour direct.
C'est le plus important, parce qu'en réalité, quand on est sur un stand du Salon de l'Agriculture, on revoit d'abord les clients qui sont venus nous visiter en Guadeloupe. Ensuite, on les revoit à Paris. On peut échanger avec eux. On peut boire un petit punch. C'est quand même très agréable de boire un petit punch pendant le Salon de l'Agriculture.
Avec modération.
Avec modération, bien sûr. Donc c'est un moment très important, d'autant plus pour une société, comme vous dites, familiale, parce qu'en réalité, moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde, c'est de travailler dans une entreprise familiale, même si, les relations familiales, comme il disait, c'est pas toujours... Il y a aussi des tensions, mm-hmm. C'est une société comme une autre, mais c'est... Et puis voir, dans mon cas à moi, un produit qui porte mon nom, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Le salon pour le Monoï, ici vous êtes connu, mais peut-être que c'est les salons à l'étranger finalement qu'il faudrait faire davantage pour faire connaître le produit. Est-ce que c'est envisagé? Est-ce que vous le faites?
On le fait occasionnellement, mais la destination polynésienne est connue beaucoup par les Français, ce qui est tout à fait normal. Parfois même certains ne la connaissent pas. Mais après, pour l'Europe, j'ai fait dernièrement un salon en Italie, à Milan. Les Italiens le connaissent par la lune de miel, donc une catégorie de personnes très réduite. Et ensuite, après, c'est le désert, quoi. Donc il y a beaucoup, beaucoup de communication à faire pour dire où est Tahiti, que fait Tahiti et que savent-ils réellement faire.
Ah oui, commencer par localiser sur la carte, c'est déjà pas mal. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de vos beaux produits qui sont aussi la vitrine de nos produits français. Merci d'être venus sur Europe 1, ici, au Salon de l'Agriculture.
Merci Raphaël.
Il est 13h37.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Restez avec nous dans un instant, on les appelle les rois du grain. Ils sont aujourd'hui le premier malteur au monde. Soufflé est l'entreprise qui va bien. Merci, à tout de suite.
Europe 1.
La France bouge, se poursuit jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin en direct du Salon de l'Agriculture. On va maintenant s'intéresser à une entreprise qui va bien.
Eh oui, cette entreprise s'est soufflée dans l'aube. Bonjour Jean-Michel Soufflé.
Bonjour Raphaël Duchemin.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 et ici au Salon de l'Agriculture. Vous êtes le président du directoire du groupe Soufflé. Tout commence, je crois, à Nogent-sur-Seine, en Champagne, là où le groupe est toujours, avec un commerce de détail. C'est vos arrière-grands-parents, Pierre et Lucie, c'est ça?
Oui,
on est en 1900.
Le groupe a commencé en 1900 à l'échelon tout à fait local, puisque mes arrière-grands-parents, et plutôt mon arrière-grand-mère, parce que mon arrière-grand-père est décédé très rapidement, avaient une grainerie pour vendre des graines aux gens qui élevaient des poulets, des lapins au fond de la cour. Et donc le groupe a commencé comme ça. Ça a été la première génération. La seconde, ça a été mon grand-père qui a épousé la fille de ses grainetiers, qui s'appelait Madame Juchat. Et mon grand-père Soufflet, Jean.
Qui prend la tête de l'entreprise
en développant à l'échelon, je dirais, un peu cantonal, et en construisant notre premier silo portuaire, un tout petit silo portuaire sur la Seine à Nogent. qui nous a permis d'expédier les premières péniches à l'époque vers la Belgique, la Hollande, l'Allemagne.
C'est très inventif à l'époque déjà.
Oui, oui, c'était assez inventif à l'époque. Mais là, vous êtes devenu plus inventif, c'est à partir de 57 que mon père est monté à la tête de l'entreprise lorsqu'il a d'abord, d'une part, voulu vulgariser l'utilisation des engrais et des produits de protection des plantes auprès des agriculteurs.
Votre père qui s'était mis en grève contre son patron, enfin sa mère.
Contre sa mère, oui, mais ma grand-mère était un personnage. Voilà. mon père a donc vulgarisé ces techniques parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lycée agricole aussi structuré qu'aujourd'hui. Les produits de protection des plantes, les engrais étaient nouveaux. Les agriculteurs ne savaient pas les utiliser. Donc mon père a mis en place des services techniques pour l'apprendre aux agriculteurs.
Ce qui est commun quand on regarde justement l'histoire de votre groupe et du coup de votre famille, c'est de se rendre compte qu'il y a une constante, c'est le caractère. C'est vraiment le caractère qui ressort dans toutes les générations. Et aussi le fait de demander à chacun de commencer tout en bas de l'échelle, c'est-à-dire en portant les sacs pour véritablement connaître tout l'univers. Ça, c'est important.
C'est important, c'est très important parce que je crois que...
C'est ce que vous avez fait d'ailleurs.
C'est ce que j'ai fait quand j'étais petit. Quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à travailler pendant les vacances, payer ma mobilette, oui, effectivement. Et puis ensuite, mon père m'a payé, mon père a mis de conduire camion, puisque il fallait que je produise des camions l'été. Donc j'ai commencé un peu à tous les stades d'entreprise.
Il vous envoie même dans le Midwest américain pour apprendre l'anglais.
Oui, j'apprenais l'anglais dans le Midwest américain. J'étais en fac le matin, j'étais dans un silo l'après-midi. Et ensuite, du temps de Pinochet, je travaillais dans une malterie au Chili pour apprendre l'espagnol. Vous voyez. Donc des vacances exotiques, studieuses en même temps.
Comment est-ce qu'on peut faire grandir un groupe qui est un groupe local, hein, vous le disiez au départ, et en faire aujourd'hui un leader mondial? Vous êtes numéro un.
On est numéro un, numéro deux selon les secteurs, hein, ça dépend. On est resté un groupe complètement familial, hein, 100%. On n'a pas d'actionnaires extérieurs dans les médias. Et donc, une des recettes, c'est qu'on a toujours tiré un trait sur les dividendes versés aux actionnaires. On n'a jamais pris un euro de dividende. Donc, évidemment, tous les profits de l'entreprise ont été réintégrés au service de son développement. Et ça, ça aide beaucoup. Alors, d'aucuns diront que c'est un sacrifice. Quand on a la passion de son entreprise, ce n'est pas un sacrifice. C'est alimenter sa passion, hein, davantage. Et donc, c'est comme ça qu'on fait développer l'entreprise. Puis avec du travail, il y a beaucoup de travail.
Vous êtes aussi un géant caché, on peut le dire. Hein. Le secret, c'est aussi une des clés de la réussite. Vous n'aimez pas forcément qu'on vous mette sur le devant de la scène?
Non, on n'est pas très, très médiatique. D'abord, on n'a pas de produits grandes conso, très peu, en réalité. On n'a pas de vraie marque. On n'aime pas trop se mettre sur le devant de la scène. Mais par contre, on aime être au milieu de nos employés, au niveau de nos salariés. Et au milieu de nos agriculteurs, parce qu'on est très proche du métier de la terre.
Que dit notre coach?
C'est un champion caché français. Je sais que vous portez un combat un peu particulier en ce moment, parce que dans le cas d'une agriculture propre, vous êtes aussi opposé à la séparation des firmes de phytosanitaires entre le conseil et la vente. J'ai vu que c'était quelque chose qui était important pour vous. Pouvez rapidement et peut-être simplement expliquer pourquoi il y a un combat autour de ça?
Il n'y a pas de combat autour de ça. Le combat pour moi, c'est que, en fait, en réalité, les gens pensent que les agriculteurs répandent des produits de protection des plantes pour le plaisir. Moi, je voudrais rappeler quand même que dans les produits de protection des plantes, ça a un coût énorme, et que les agriculteurs sont des gens tout à fait conscients de leur environnement. Et dans ces produits de protection des plantes, vous avez même parfois plus de taxes que de valeur de produits. Donc, on en met quand la plante est malade. Et une plante qui est malade, c'est comme un animal qui est malade, il faut le soigner. Je regardais tout à l'heure dans le hall 2 une petite plateforme de culture d'ange où il y avait une affiche qui m'a fait plaisir, où c'était marqué « Ici, si nous ne soignons pas nos plantes, il y a environ 30 à 40% de la récolte qui serait morte. » Et c'est le cas. Je veux dire, on ne se rend pas compte en France d'une chose, c'est qu'on vit de plus en plus vieux parce qu'on mange de mieux en mieux. On n'empoisonne pas l'agriculture et les industries agroalimentaires n'empoisonnent pas la planète. Hein. Ça saurait, on ne vivrait pas aussi vieux que cela. Et aujourd'hui, on essaye de nous faire croire qu'on est malveillant. Alors que nous, notre rôle en tant que distributeur de produits de protection des plantes, ce n'est pas d'en vendre le maximum aux agriculteurs, c'est de donner aux agriculteurs la dose suffisante et ce dont ils ont besoin, et uniquement ce dont ils ont besoin, pour soigner leurs plantes et optimiser le compte d'exploitation de leur ferme. C'est ça notre credo.
7000 salariés, 58 sites de production, 4,5 millions de chiffre d'affaires. C'est le groupe Soufflé et c'est aujourd'hui l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu
nous
en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Merci à vous.
Il est 13h48.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous voulez trouver un travail dans le monde agricole, mais vous ne savez pas par où commencer. Mission WeezyFarm est peut-être bien la solution. A tout de suite.
Et on vous retrouve, Raphaël Duchemin, pour la suite et fin de La France bouge. D'ailleurs, toute la semaine, vous êtes en direct du Salon de l'Agriculture et on termine toujours cette émission par une solution.
Eh oui, comment faciliter l'emploi dans le monde agricole? Une start-up a trouvé la solution. Benjamin Lévesque, vous nous faites découvrir aujourd'hui Mission WeezyFarm.
Eh oui, c'est une application, un site qui met en relation un agriculteur, mais ça peut aussi être un éleveur ou un viticulteur, avec un salarié, un artisan, voire même un étudiant qui cherche un travail ou juste à arrondir ses fins de mois. C'est très simple d'utilisation, c'est gratuit. Il suffit de s'inscrire, d'expliquer ce que l'on cherche. L'agriculteur qui a besoin d'un coup de main va ensuite recevoir des candidatures, celles qui ont le profil le mieux adapté. Et comme sur Tinder, eh bien, parfois ça match, parfois non.
Bonjour Jean-Baptiste Vervy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, ici au Salon de l'Agriculture, sur le stand France Terre Delay. Vous avez lancé, je crois, ce projet il y a 5 mois. Quels sont les premiers retours? Ça match, comme dit Benjamin?
Oui, ça match. C'est vrai qu'il y a 5 mois, on a lancé la plateforme. Elle n'était pas connue. On a 1500 inscrits depuis. Et on a déjà fait 60 matchs. Il y a eu 60 propositions qui ont été faites par des personnes qui cherchaient des employés, des salariés à travailler. Quelqu'un pour garder les moutons pendant que le gars partait en vacances, par exemple, ou un chauffeur de tracteur pour la saison des semis. Sur ces propositions, la moitié ont trouvé un match. Alors qu'on n'était pas connu, ça promet pas mal d'espoir. Ce qui nous a motivés sur ce sujet-là, c'est que d'un côté, en agriculture, il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. On a démarré le salon en disant qu'il y a 70 000 personnes qu'il nous faudrait en fait, dans l'agriculture, sur des emplois durables. Mais en plus, il y a plein de missions ponctuelles avec le métier agricole. Il y a aussi de la saisonnalité, des travaux ponctuels. En face, il y a des gens qui ont des compétences. Et notre credo, c'est de ne parler que de compétences. Donc, il y a tout un tas de personnes qui ont des compétences, à la fois dans le monde agricole, un autre agriculteur, mais un jeune retraité, effectivement, et un salarié. On fait matcher les compétences comme sur un site de rencontre.
Et qu'est-ce qu'on vous demande le plus? C'est quoi les plus gros besoins?
Aujourd'hui, c'est beaucoup autour de la conduite de tracteur ou sur les exploitations céréalières. On a un peu de demandes en élevage pour accompagner, chercher un appoint en fait pour travailler sur les élevages, pour soigner les animaux. J'ai une annonce en tête pour travailler la vigne, encore une fois, en complément, ponctuellement, pour renforcer la main-d'œuvre qui fait défaut à certains moments de l'année.
La cible, c'est quoi? C'est les jeunes? C'est ceux qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter une exploitation?
C'est pas forcément les jeunes. C'est effectivement tous ceux qui ont envie de travailler dans l'agriculture, déjà, parce que c'est super, c'est des métiers magnifiques. Moi, étant agriculteur, je peux pas dire le contraire, et je suis passionné par ce métier. Et puis c'est des gens qui ont besoin de travailler un peu plus, de prendre une mission ponctuelle et de se mettre 1000 euros, 2000 euros de plus dans la poche.
Que dit notre coach, Laurent Chouard?
Et puis bravo, parce que les deux drames du monde paysan, finalement, c'est la solitude non choisie et l'assignation à résidence. Et vous répondez à ça. Mais alors, vous dites que vous êtes un agriculteur, vous êtes aussi un diplômé de l'EDEC. Comment on fait ça?
Et pourquoi pas?
Pourquoi pas
être agriculteur et avoir fait quelques formations. Mais...
c'est le cas de plus en plus d'ailleurs.
Oui, alors c'est bien le sujet d'ailleurs dans l'application, c'est de se dire on ne sait pas en fait en quoi les gens sont compétents. On vous met dans des cases, vous avez tel métier, telle casquette, et vous pouvez avoir tel métier aujourd'hui et avoir fait autre chose avant. Et donc vous avez accumulé au cours de votre carrière des compétences. Et donc nous, justement, sur l'application, c'est de dire on s'en fiche des métiers. Ce qui compte, c'est de rapprocher les compétences. Et même, on rajoute des centres d'intérêt en disant comme travailler, c'est aussi une expérience humaine. Si en plus, on peut trouver la personne avec qui on s'entend bien, eh ben, on va peut-être faire plus qu'une mission, plus qu'une conduite de tracteur. Peut-être qu'on fera un projet, quoi.
C'est ça, vous ne mettez pas uniquement en relation, vous les suivez, il y a une note, j'ai vu ça.
C'est ça, ouais. Alors une des clés, c'est de se dire justement comme la plateforme, elle va matcher des compétences, savoir si on est si on ne nous vend pas du rêve, en fait, la communauté va donner une note pour dire, bah, tiens, cette personne-là, oui, effectivement, elle sait bien conduire un tracteur. La dernière fois, elle est passée chez quelqu'un qui lui a mis une bonne note. Donc, ça fiabilise. Donc, c'est notre plateforme, c'est un peu un mythique de l'agriculture avec une couche de blablacar pour valider qu'on peut travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui ne nous vend pas du rêve, qui sait vraiment faire ce qu'il dit.
Et ça s'appelle Mission Wheezy Farm. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. On parlera, tiens, demain, notez-le d'ores et déjà, des agriculteurs connectés. Je suis sûre que ça va vous parler, tout ça. On sera ici, évidemment, en direct. Merci à Laurent Choix, qui était notre coach.
Merci.
Benjamin, nous, on se retrouve demain, toujours ici, sur le stand France Terre de Lys.
Et oui, Port de Versailles à Paris. Merci, à demain, Raphaël Duchemin.